RMC.
Nous sommes de modestes provinciaux qui seraient très satisfaits d'être champions d'automne.
C'est dur à dire peut-être pour ma famille, mais c'est peut-être le plus beau jour de ma vie.
On s'est tapé dans la main en visio dans la nuit.
After Lyon,
Nicolas Jamin.
Salut à toi supporter lyonnais et bienvenue dans le podcast After Lyon avec cette semaine Roland Courbis. Salut coach.
Salut les amis et salut à tous.
Et notre correspondant historique sur place entre René Saul et Edouard G. Là. Salut Edouard.
Salut Nico, salut coach, bonjour à tous.
Attention, cet épisode du podcast After Lyon ne va pas vous rassurer supporter lyonnais. Edouard, tu suis au quotidien l'OL, John Textor. Le bilan est inquiétant, politique sportive illisible, communication incompréhensible, ambiance pesante. Ces questions cette semaine, OL va-t-il tout droit vers le mur pour s'y fracasser? Comment Fabio Grosso vit ses premières semaines? Y a-t-il quand même des motifs d'espoir? Le mercato d'hiver peut-il tout changer? Un président à distance, est-ce que ça peut tenir? Vous écoutez le podcast After Lyon, c'est parti! Lyon est donc dernier de Ligue 1. Une des deux dernières équipes d'ailleurs à ne toujours pas avoir gagné un match avec Clermont. Seule équipe en revanche à n'avoir toujours pas ouvert le score. 2 points sur 21 possibles. Edouard, avant qu'on parle de John Textor, des leviers qu'il va activer pour remonter le club, c'est comment l'ambiance chez toi, à l'OL en tout cas, en ce moment, dans le vestiaire d'abord, tiens.
Bah, le vestiaire, on va dire que entre guillemets tout va bien, mais tout va bien dans un vestiaire qui perd. Voilà, toutes les infos ou plutôt rumeurs qu'il y a pu y avoir sorties la semaine dernière, c'est quand même beaucoup exagéré. C'est voilà, c'est un vestiaire qui perd, qui n'est pas forcément joyeux. Pour avoir assisté à des séances encore aujourd'hui, ce mardi, voilà, ce sont des joueurs qui se parlent sur l'entraînement parce que Fabio Grosso demande que justement qu'ils évacuent un certain nombre de choses. Il y a pas de friction, voilà, franchement, là-dessus c'est pas faire
peut-être
de
mieux
la com,
parfois,
hein,
quand
voilà,
des frictions, hein, parfois
oui non, mais je veux dire, il y a des bons contacts, par exemple, là, pour tout vous dire, je sors de l'entraînement, il y a des bons tampons, on va dire, il y a des bonnes choses, on se parle, on fait des entraînements intenses. Après, dire qu'il y a des bagarres, il y a des ceci, il y a des cela. Non, voilà. Mais par contre, c'est un club, c'est une équipe, c'est tout un environnement qui perd. Donc, fatalement, qui n'a pas gagné, qui n'a pas ouvert le score et même qui n'a pas mené en 630 minutes de jeu. Ça, c'est un truc de dingue, on va dire, permettez-moi avec l'expression.
Ah ouais,
pire début de saison. Pas ouvert le score, pas mené même dans un match, c'est un truc.
La même chose, bien sûr.
Oui. Bon. Non, mais tu peux être mené 1-0 et puis après faire 2-1, par exemple. Voilà, c'est le pire début de saison de toute l'histoire de l'OL.
Bon, coach, je te pose une question là, qu'on s'est posée dans l'after en fin de semaine dernière. Par rapport au match que tu vois de Lyon, tu les as tous vus, est-ce que selon toi c'est un problème de niveau global de l'équipe, de l'effectif? Peut-être que cet effectif est un peu surcoté, qu'il n'est pas bon tout simplement, ou est-ce un problème de confiance collective à cause de la politique générale du club, à cause d'une mayonnaise qui prend pas?
Tout ce que tu dis peut être réuni. Mais ce qu'il y a pour moi de compliqué, c'est pas seulement valable pour Lyon, c'est valable pour Marseille, c'est valable pour Paris Saint-Germain. Ce sont des endroits particuliers. Donc, cet effectif de Lyon, je pense, pour beaucoup de clubs, terminerait sans aucun problème entre la 8e et la 12e place. À Lyon, j'en suis pas sûr. À Lyon, avec les habitudes et les ambitions que l'on peut et que l'on doit avoir, avec le budget qu'il y a, apprendre et comprendre qu'on puisse jouer le maintien, c'est tout simplement incompréhensible de la part d'un supporter. C'est ça qui m'inquiète, c'est pas l'effectif de Lyon. Après, qu'il puisse y avoir des postes où effectivement, il faut quand même qu'on trouve un petit peu mieux. Quand on a eu les possibilités d'avoir Paqueta, Juninho, Memphis,
Guimarães,
et que aujourd'hui on voit par exemple Tolisso ou Kakere dans des situations de meneur de jeu, mais qui mène le jeu de façon moyenne, n'en soyons pas surpris, c'est le contraire qui serait anormal.
Est-ce que on envisage déjà parfois, mon cher Edouard, à Lyon, le pire Suivez mon regard, vous savez de quoi je parle. Hein. Une descente en Ligue 2 après seulement 7 journées. Je rappelle qu'à Bordeaux, jusqu'en février-mars, on l'imaginait même pas une seconde. On se dit, mais non, ouais, c'est ouais, bon, on va rebondir. Comme tu le disais, Edouard, à l'instant, à Bordeaux, on disait, non, l'ambiance reste bonne malgré les résultats. Et puis, c'est arrivé plus vite que prévu.
À Saint-Etienne aussi. Et l'année dernière, à la 38e journée, Nantes aussi, on a failli avoir Bordeaux, Saint-Etienne et Nantes.
Edouard.
Alors là, pour l'instant, on va dire que le seul qui est plus ou moins dans le déni jusqu'à présent, c'est le président, c'est le propriétaire, John Textor, qui est encore, lors de la présentation de Fabio Grosso, il n'y avait toujours pas de victoire, bien évidemment. Alors c'était il y a deux matchs, donc il y avait deux défaites en moins, parlait quand même de l'Europe. Alors il parlait plus de la Ligue des Champions, il parlait de l'Europe. Mais là, quelque part, ça veut dire qu'il est un petit peu hors sol. Pour le reste, il y a beaucoup, et j'en ai parlé déjà dans l'after dès le mois d'août. Roland, souviens-toi, il y a beaucoup de spécialistes qui suivent, éducateurs et qui connaissent le ballon à Lyon, qui se disaient, voilà, avec l'effectif qu'il y a, c'est pas évident de viser mieux que la 10e place. Et il y en a même certains qui évoquaient le maintien. Ça faisait un petit peu sourire, mais là, maintenant, en fait, je crois que le match à Brest a vraiment fait basculer beaucoup de monde. Cet échec à Brest, alors que Fabio Grosso venait d'être mené, on pensait le choc psychologique, etc., etc. Et puis, non seulement il y a eu la défaite, mais il y a eu la manière. Donc ça a vraiment fait basculer un certain nombre de personnes dans le pire, quoi, en fait. Et c'est vrai que maintenant, entre Rhône et Saône, mon cher Nicolas, on parle beaucoup, pourquoi pas, non, on ne parle pas beaucoup, mais on imagine déjà l'année prochaine, dans ce grand stade, des matchs de Ligue 2. Alors après, le pire qu'on imagine, le scénario le pire, mais tu imagines pourquoi, ce serait un play-off entre Lyon et Saint-Etienne au mois de mai. Voilà. Mais ça, c'est ceux qui font des plans sur la comète.
On n'y avait pas pensé.
On le regarderait quand même, celui-là, hein, coach. Hein.
Ah bah oui.
Je ne vais pas dire qu'on le souhaite, mais on le regarderait quand même.
Ouais, mais bon, pour le football français, ça ne serait pas le bon.
Évidemment. Chose. Comment Fabio Grosso vit la situation, mon cher Edouard, après deux semaines de présence à Lyon? Tu l'as dit, il n'y a pas eu de choc psychologique. Il a mesuré l'ampleur du chantier qu'il attendait encore plus depuis qu'il est arrivé. Comment il vit ça?
Ouais, il y a eu deux temps. Il y a eu la semaine où il est arrivé, donc juste avant Brest. Donc il est arrivé avec son accent, avec son énergie, avec son nouveau staff, une fraîcheur, on va dire, qui a un peu emporté tout le monde en disant, voilà, bah, il va y avoir un choc psychologique. Et puis ça a été un choc de ce qu'il a vu à Brest, c'est-à-dire... voilà, rien quoi en fait, d'une certaine manière.
Un choc apathique.
Un choc apathique. Exactement.
Oui, parce que c'est pas le résultat qui est emmerdant.
Non, c'est ça. C'est l'attitude en fait.
Les 30 pratiquement occasions là, aux situations dangereuses de Brest tirs, ouais. Et les 1,5 de Lyon. Donc c'est sûr que ça c'est plus inquiétant que le résultat.
Ouais, et après, dans l'après-match, il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de travail qu'il ne pensait. Alors, il a beaucoup travaillé dans la semaine, il travaille et puis il revient sur des fondamentaux, quoi, en fait, parce qu'il sent qu'il manque beaucoup de choses dans la technique, quoi, en fait. Il nous le dit même en on, hein, en conférence de presse. Voilà, il faut refaire des choses, il faut retravailler des toutes petites choses et il insiste sur le mot ensemble. C'est des choses toutes bêtes. Oui. C'est ce qu'on a vu, c'est que les joueurs arrivent ensemble sur le terrain, c'est qu'ils repartent ensemble à la fin du match, à la fin de l'entraînement, qui déplacent le but ensemble, qu'ils viennent faire un repas avant l'entraînement de l'après-midi. Alors, c'est vrai qu'il y a toute cette donnée de travailler plus. Alors, c'est plutôt travailler mieux. Par exemple, cette semaine, il y a eu quand même un repos lundi. Hein, il y a eu décrassage après le match à Brest dimanche après-midi. Repos lundi, donc on ne travaille pas bien évidemment tous les jours. Mais il y a mercredi et jeudi où les séances sont doublées. Mais elles ne sont pas forcément doublées en quantité, coach et Nico. Elles sont doublées parce qu'ils divisent les groupes. Ils veulent vraiment travailler avec les joueurs presque en un. Voilà, une manière différente, une méthodologie différente.
Ben oui, mais disons qu'on va suivre ça, nous, avec beaucoup de curiosité. Et c'est sûr qu'être inquiet, c'est tout à fait logique. Et donc, après, je t'écoute toujours attentivement. C'est sûr que si on parle de l'effectif de Lyon, l'effectif de Lyon, tu gardes Barcola et Loukeba, tu as quand même trois joueurs offensifs. Lacazette, Cherki, Barcola, pas mal. Les milieux, bon, évidemment qu'il te manque un Paqueta, mais ça, il y a beaucoup d'équipes où il n'y a pas de Paqueta. Et les défenseurs, gardien de but, bon, ben, on sait très bien ses qualités, ses défauts. Le deuxième but du dernier match, ben, il y a une tête sur lui, il plonge, je ne sais pas pourquoi, mais ça, c'est son habitude. Donc, il est plus... intéressant qu'inintéressant, mais de temps en temps, il fait sa petite erreur lui aussi, alors qu'on a besoin des cadres et on a besoin des joueurs avec cette expérience pour pouvoir être un petit peu les leaders qui montrent le chemin. Et pour le moment, on le voit pas, ça.
Alors, il y aura le mercato d'hiver, on va en parler dans un instant, dans lequel croient beaucoup de jeunes texteurs. Je rappelle quand même que l'OL va jouer ses deux devanciers au classement dans les deux prochaines journées, coach. À deux fois à domicile, Lyon-Lorient et Lyon-Clermont. Donc là, si tu n'en gagnes pas au moins un des deux...
Ce n'est pas les matchs dans cette situation. Les matchs rêvés, c'est des matchs qui sont encore plus compliqués parce que là, c'est pas... Déjà que tu n'arrives pas à prendre 3 points, là, on te fait jouer un match à 6 points.
Exactement, déjà après cette journée. Il y a donc le mercato d'hiver, mon cher Edouard, qui, selon John Textor, va peut-être tout régler. C'est ce qu'il laisse penser dans un communiqué qu'il a publié après la défaite à Reims dimanche. Il écrit « Comme vous le savez, en janvier, nous n'aurons aucune limite en matière de gouvernance sur notre capacité à renforcer l'équipe. » C'est vrai qu'il a engrangé et qu'il va encore engranger de l'argent. Va-t-il pouvoir l'utiliser ? C'est la question, mon cher Edouard.
Oui, alors comme vous le savez, personne ne le sait sauf lui, en fait, finalement. Parce que pour l'instant, on est dans le feu rouge du mois de juin-juillet, qu'il y a une clause de revoyure au mois de novembre, comme avec tous les clubs au niveau de la DNCG. Tout le monde repasse devant le maître d'école des finances, la Direction nationale de contrôle et de gestion. Et lui, il estime... parce qu'il a respecté la fenêtre des dépenses de l'été, c'est-à-dire 25 millions d'euros, parce qu'il a suivi aussi la recommandation de limiter la masse salariale avec beaucoup de salaires de XXL qui sont partis, et puis la vente pour 107 millions de joueurs, il estime qu'il doit mériter un feu vert. Mais est-ce que à ce niveau-là, le mérite est là ? Est-ce que c'est logique ?
C'est pas mathématique. Je me pose la question.
C'est pas forcément mathématique.
Donc, ça oui, veut mais, dire qu'il y a pas... Non
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres... quand on voit tout ce qu'on entend...
Les deux, je les ai... Qui c'est le troisième qui a rapporté des sous ?
Taboatène, aussi.
Romain Fèvre...
Sur la masse salariale.
Non,
la masse salariale.
Barcola, Lokeba.
Barcola, après, Lokeba, Romain Fèvre, Tchenko Chachar, par exemple, 15 millions. Voilà,
c'est... Sachant que Barcola et Lokeba, c'est déjà plus de 110 millions d'euros.
73, ouais, c'est 73, ça. Voilà. Donc voilà, on y arrive vite. Le souci, c'est qu'il y a beaucoup de clignotants qui sont pas clairs. Par exemple, l'histoire de vendre des actifs. Alors oui, parce qu'ils pensent aussi que la vente de l'OL féminin va être effective.
Je croyais qu'il allait faire jouer deux féminines, non.
Non, mais en termes d'argent, l'OL féminin, la structure va être vendue, donc ça va rapporter de l'argent et surtout, ça va faire économiser 13 millions de charges à l'année à l'OL parce que la structure féminine a un déficit de 13 millions d'euros.
Donc ça fait 107 millions de ventes, plus 50 millions d'euros pour OL Rennes, c'est ça ?
Voilà, plus
13 millions
plus
d'économies de charges.
Oui, plus la OL féminin qui d'une certaine manière va être vendu aussi. Alors c'est pas de l'argent directement, mais c'est des jeux d'écriture. Donc ça, ça peut faire beaucoup. Mais le problème aussi, c'est que quand il envoie, par exemple, l'info qu'il veut vendre l'Arena. L'Arena, c'est une salle de spectacle et de sport qui jouxte le Groupama Stadium. Mais pour l'instant, elle n'est pas terminée. Elle sera effective au 23 novembre prochain. Donc, il veut vendre quelque chose qui n'est encore pas un actif. Donc, ça surprend un peu beaucoup de monde.
C'est-à-dire tous les spectacles à l'intérieur de l'Arena, ils ne rentreraient plus comme argent.
Exactement.
Voilà, c'est ça, l'exploitation et le bâtiment.
S'il vend 100% de l'Arena, parce que là, il explique qu'il
vend
100%, de 40
à 100%. Voilà, mais peut-être que quelqu'un va vouloir prendre 100%. Donc, c'est vrai qu'on se dit que c'est vrai qu'il y a cette somme qui est là. Mais est-ce que cette somme, c'est pour du plus ? Ou est-ce que cette somme, c'est pour boucher des trous ?
Pour éponger, bien sûr.
Voilà, pour éponger. Et là, c'est là où il y a beaucoup de supputations, parce que la communication, elle est délicate, c'est des finances, c'est là où on se perd un petit peu. Et puis, par rapport à cette DNCG, moi, je me rappelle qu'en juin-juillet, et j'étais le premier à y croire, quand il disait « ça va passer crème, il n'y a pas de souci », et surtout, je ne vendrais ni Barcola, ni Bradley Barcola, ni Castello Luqueba. C'était quand même la ligne directrice du début du mercato.
Donc là, faut-il
au mois
encore
de juillet.
Le croire ? Faut-il encore le croire à John Textor ?
Exactement.
Qui a décidé également d'une levée de fonds auprès d'éventuels investisseurs à hauteur de 300 millions d'euros, là aussi.
Ça, c'est pour remplacer, c'est pas de l'argent en plus.
C'est pour
remplacer la dette sur le stade qui est détenue par 12 banques. Il veut que ça soit à la place de 12 banques, que ça soit un seul émetteur, le marché obligataire. Donc là, c'est pas de l'argent en plus. C'est de l'argent qui remplacerait les 12 banques parce que voilà, la dette de l'OL est portée par 12 dettes. Vous imaginez la complexité de l'affaire.
Coach, et en plus, ce président dont on a du mal à comprendre la communication n'est pas là. Il vient que très rarement sur ces terres lyonnaises. Il travaille à distance, comme le dit souvent Edouard, en visio également. Il n'était même pas là pour annoncer à Laurent Blanc que c'est terminé. Il oblige les intérimaires à expliquer aux joueurs que c'est eux qui vont prendre l'intérim. Comment c'est possible, coach? Comment ça peut marcher comme ça? Est-ce que ça te choque ou pas qu'un président soit si distant de son club?
Non, je pense qu'un président peut avoir du recul à condition qu'il soit en relation régulière avec des personnes sur place, 24 heures sur 24 sur place, des directeurs sportifs, adjoints de directeurs sportifs, recruteurs, pardon.
Bah non, il n'en veut pas,
oui,
le directeur sportif.
Mais, ouais, mais justement, et là où il m'inquiète, sincèrement, mais je le regarde avec un sourire, et je ne te cache pas, bon, je ne vais pas changer maintenant, c'est trop tard avec l'âge que j'ai, un sourire un petit peu moqueur, tu vois. Quand le gars il est en train d'expliquer aux passionnés de football, aux supporters de Lyon, qu'il va y avoir au mois de décembre-janvier la possibilité de faire un recrutement presque avec des possibilités illimitées. Non, là où il est vraiment sincèrement inquiétant, c'est que ce qu'on peut lui dire, c'est qu'en football, on a quand même la prétention d'y comprendre un petit peu et surtout mieux que lui. Et donc, c'est pas difficile. En football, et pas seulement en football, dans les sports où il faut avoir de l'argent pour réussir, si tu n'as pas d'argent, tu es sûr d'échouer. Mais ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu es sûr de réussir. Parce qu'à Lyon, dans le recrutement du mois de décembre, ce n'est pas le traditionnel joueur. Il faut trouver un joueur qui a envie de venir dans un club très compliqué pour s'imposer. Ce club-là, il est anormalement, et pour la première fois ou une des rares fois, mal classé, et trouver aussi des joueurs complémentaires avec ce qu'il y a déjà. C'est ça le problème. Et ça se règle pas seulement avec un chèque, ça se règle avec un cerveau, ça se règle avec des connaissances, ça se règle avec des habitudes. Et là, quand je vois cette confiance-là de ce qu'on peut transmettre en communication, puisque c'est la période actuelle, à la mode, la communication. Mais la communication, si tu expliques, on s'inquiète pas. Au mois de décembre, il va y avoir les sous, mais il faut les compétences aussi, pas seulement les sous.
Coach, j'ajoute qu'en décembre, tu sais pas où t'en seras au classement. S'il faut tuer 19e ou 17e ou 18e de Ligue 1, avec 11 points de retard déjà sur le premier non relégable, tout est possible. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer d'ici le mercato d'hiver, qui semble être le salut selon John Textor.
Dans tous les cas, sans dramatiser, on peut penser que dans une dizaine de matchs, Lyon peut être quand même toujours dans un classement anormal pour les habitudes de Lyon et les possibilités financières de Lyon. Et ça, les supporters de Lyon, ce ne sont pas les mêmes que des supporters qui ont l'habitude de jouer le milieu du tableau. Le milieu du tableau à Lyon, tout le monde gueule.
Bon, t'es déjà à 5 points du premier non relégal après cette journée. Hein. Edouard, il avait promis à PDG, pourtant, John Textor, il n'est toujours pas là?
Oui, alors en fait, il y a Santiago Cucci qui est président exécutif, mais par intérim. J'ai bien relu les termes du communiqué du 13 juillet, et c'est vrai qu'il voulait un président aux racines lyonnaises pour un peu être dans le microcosme économique, politique, parce que ça c'est important, comme dans toute ville, mais peut-être à Lyon encore plus. Et puis là, c'est un dossier. Il y a un certain nombre de CV qui sont sur la pile, mais c'est un dossier qui pour l'instant est repoussé. Il faudrait cette incarnation vraiment de quelqu'un sur Lyon qui connaisse un petit peu. Il y a quelques noms qui circulent, et puis il faudrait aussi une incarnation sportive. Alors là, il y en a un qui piave d'impatience, c'est Sonny Anderson. Santiago Cucci aimerait bien l'avoir à ses côtés, mais John Textor, lui, ne voudrait pas un directeur sportif, parce que un petit peu comme Jean-Michel Aulas, il veut être président et directeur sportif. Donc il va falloir que là, il va falloir qu'il s'entoure d'incarnation.
Fasse preuve un peu plus d'humilité pour rejoindre coach également, parce que le foot, c'est pas forcément son activité première. D'ailleurs, information, indiscrétion que tu nous as livrée également, il y a des anciens de Lyon qui se lamentent du gâchis en cours, sans pouvoir intervenir, sauf à évoquer des pistes sur une boucle WhatsApp intitulée déjà, coach, Sauvons OL. Voilà. Ça ressemble
souvent au soldat lyonnais.
Voilà, c'est ça. Donc, ouais. Ça rappelle exactement ce que tous les clubs menacés de descente ont connu. Je pense à Bordeaux notamment, quand les anciens se mobilisaient à défaut de pouvoir aider le club dans lequel ils ont brillé. Edouard, voilà, merci
beaucoup.
Alors, c'est
beaucoup. Vrai qu'il y a juste une stat qui a sorti ce matin, nos confrères du Progrès. Donc, il y a une chance sur deux quand tu as deux points au bout de cette journée de t'en sortir, hein, depuis l'histoire de la Ligue 1. Donc, une chance sur deux, ben voilà, il y a une chance sur deux quand même que tu te retrouves en Ligue 1 l'année prochaine pour voir le verre à moitié
plein quand même. Oui, mais c'est Lyon. Tu vois, la différence, c'est que c'est
Lyon.
Voilà,
c'est Lyon. Ils ont aussi trouvé la trace d'une belle remontée par Nantes en 2001-2002. Mmh. Je ne me souvenais plus de ça.
Après le titre.
Nantes était... oui, c'était après le titre, voilà, c'est ça. Dernier avec deux points après sept journées, ben, ils avaient terminé dixième avec 43 points. Mais il va falloir commencer à gagner dès dimanche face à Lorient et puis ensuite face à Clermont dans un Olympico Rhône-Alpes-Auvergne qui va être important.
C'est sûr que le résultat de ces deux matchs-là, parce que je regarde en ce qui concerne les Olympiques, je regarde l'Olympique lyonnais, je regarde aussi l'Olympique de Marseille. Et donc, à la fin du mois, je crois qu'il y a un Olympique de Marseille et de Lyon. Ouais. Suivant ce qui se passe dans le résultat de ces deux clubs, alors bonjour l'ambiance. Donc, c'est vrai qu'il y a de l'ambiance avec 65 000 spectateurs au stade Vélodrome. Mais je préfère même pas y penser en cas de mauvais résultat de ces deux équipes d'ici ce match-là. Parce que ça serait à ce moment-là un match tout simplement dramatique.
Lyon-Lorient, Lyon-Clermont, Marseille-Lyon, Lyon-Metz, Rennes-Lyon, Lyon-Lille et Lens-Lyon. Voilà pour aller jusqu'au début décembre. Merci beaucoup, coach. Merci à
Salut
toi, Edouard.
Les amis.
Tes articles à retrouver sur le site rmcsport.fr. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast After Lyon.
RMC After Lyon.